Alors, qu'est-ce qui compte pour entrer dans ce royaume, si ce n'est pas d'y entrer à temps, de faire ce qu'il faut à temps? Ceux qui ont trouvé porte close disent au maître de maison: nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos grandes rues. Ils pensent donc avoir été proches du maître, mais lui leur répond: je ne sais pas d'où vous êtes. Autrement dit, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas vraiment. Donc, ces personnes n'étaient pas si proches que ça du maître, pas aussi proches qu'elles le pensaient. Et il me semble alors que ce texte nous dit que ce qui est important pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est une proximité avec Dieu. Et ce qui peut alors nous animer pour réfléchir à ce texte, eh bien je crois que c'est de s'interroger sur ce que c'est qu'être proche de Dieu. Comment est-on proche de Dieu ? Vaste programme. Pour les personnes chassées de la maison, laissées dehors, ce qui atteste de leur proximité avec le maître, c'est tout d'abord, disent-elles, qu'elles ont mangé et bu devant lui. Nous avons mangé et bu devant toi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu bizarre de dire qu'on a mangé devant quelqu'un. On dit plutôt qu'on a mangé chez quelqu'un ou avec quelqu'un. Et c'est à mon avis un détail qui a son importance, puisque l'évangile de Luc, c'est l'évangile où Jésus prend le plus de repas avec les gens. C'est l'évangile où il nous est raconté le plus de repas de Jésus. Alors, c'est aussi le plus long, hein, l'évangile de Luc, pas en nombre de chapitres, mais en nombre de caractères, si l'on veut. Alors, vous me direz que c'est normal, que c'est celui où l'on trouve le plus de repas, mais quand même, voilà, il y a des repas dans l'évangile de Luc qui ne nous sont racontés dans aucun autre évangile. Et à chaque repas qui nous est raconté, eh bien, ce sont à chaque autre repas que celui-ci ou que cette allusion-là, ce sont les prépositions qui en grec signifient avec ou chez qui sont employées pour dire avec qui ou chez qui Jésus a mangé. Il ne s'agit jamais de manger devant Jésus. Et ce qui est frappant et qui montre encore l'importance des repas chez Luc, eh bien, c'est qu'ils sont souvent, pour Jésus, l'occasion de parler de salut, comme dans notre texte. Par exemple, Jésus, quand il prend un repas chez le collecteur de taxes Lévi, après l'avoir appelé, Jésus dit qu'il n'est pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. Et vous avez entendu qu'il dit à peu près la même chose quand il prend un repas avec Zachée, qui lui n'est pas collecteur de taxes, mais chef des collecteurs de taxes. Donc voilà, d'une part, l'importance des repas dans l'Évangile, peut-être une première clé de lecture pour comprendre notre texte. Et l'autre raison qu'allèguent les personnes qui pensaient être disciples du maître, mais qui sont laissées dehors, c'est « tu as enseigné dans nos grandes rues ». Et pourtant, le maître dit ne pas les connaître. Donc ces personnes ont entendu l'enseignement de Jésus, mais visiblement, elles ne l'ont considéré que comme l'enseignement de quelqu'un qui passait par là. « Tu as enseigné dans nos grandes rues », ce n'est pas « tu nous as enseigné », ni même « nous avons été tes disciples ». Et le mot grec qui est employé et contraduit par « grande rue », c'est un mot qui veut dire large rue, oui, presque avenue. Et donc, l'image qui est derrière cette expression, c'est, me semble-t-il, l'image de la ville, l'image d'une ville. Et l'erreur de ces personnes serait alors de s'être, d'une certaine manière, laissé prendre au piège de la ville, de l'indifférence qui y règne, de l'anonymat qu'elle entraîne. Voilà, quelqu'un est passé par là, il a enseigné, mais nous n'avons pas été concernés par l'enseignement qu'il nous a donné. Alors, c'est un simple mot hein, qui nous suggère cette image de la ville pour comprendre ce petit récit. Mais je crois qu'on peut prendre au sérieux cet arrière-plan de la ville. parce que l'évangile de Luc, et je continue ma série des particularités de l'évangile de Luc, eh bien c'est aussi l'évangile qui prête le plus attention aux villes. Quasiment à chaque fois que Jésus passe par une localité, Luc s'applique à nous dire s'il s'agit d'une ville ou d'un village. Et par exemple, quand Jésus, au début de l'évangile, passe par Capernaum, Luc précise que Capernaum est ville de Galilée, alors que, par exemple, Matthieu, pour localiser Capernaum, dit juste que c'est un endroit près de la mer. Et quand Jésus part de Capernaum, il dit « Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle, car c'est pour cela que j'ai été envoyé, et ce verset ne se trouve que chez Luc. » Et ce verset, d'ailleurs, nous rappelle les paroles que Jésus, les paroles de Jésus que je mentionnais peu avant. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin. Je ne suis pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. Voilà, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle. Et je me demande donc si cette insistance de Luc à nous parler des villes dans lesquelles Jésus passe, eh bien, ce n'est donc pas pour nous dire que ce ne serait pas pour nous dire que les villes et leurs habitants sont aussi des malades qui ont besoin de médecins, sont aussi des gens qui ont besoin d'être sauvés par Jésus. Comme ces personnes qui pensent qu'elles sont proches, comme ces personnes laissées dehors dans notre premier texte, qui pensent qu'elles sont proches des autres quand elles alors qu'elles ne font que manger devant eux, et qui s'accommodent donc de relations de simple voisinage sans rencontrer vraiment leurs voisins, et qui considèrent le message délivré par ce maître qui traverse leur ville comme extérieur à eux, comme un message qui ne les concerne pas plus que ça, pas plus que, disons, toute autre manifestation culturelle qui pourrait passer par là, par leur ville. Mais Jésus, nous dit Luc, est justement celui qui vient habiter nos villes, celui qui vient sauver ce qui est perdu, notamment dans les villes. Alors, j'ai parlé de Zachée tout à l'heure, puisque dans le texte de Zachée, vous l'avez entendu, Jésus dit aussi que voilà, qu'il n'est pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. Et Zachée donc est chef des collecteurs de taxes. Il vit donc dans une grande ville, à Jéricho. Et il ne peut pas voir Jésus à cause de la grande foule de sa grande ville de Jéricho. Alors voilà, il monte sur un arbre et Jésus, touché de ce geste assez humiliant pour un personnage comme Zachée, qui est un notable local, Jésus s'invite chez lui et c'est le seul repas de l'évangile de Luc où Jésus s'invite chez quelqu'un. Alors, en fait, Zachée, l'histoire de Zachée, d'une certaine manière, c'est tout le contraire de ce qui se passe pour ces personnes que le maître de maison laisse dehors dans notre premier texte de l'évangile. Puisque Zachée, lui, ne se contente pas de voir Jésus de loin dans la grande rue de Jéricho, mais il grimpe à l'arbre. Et alors Jésus s'invite chez lui, et Zachée en est tout joyeux, nous dit le texte, puisqu'il sait que pour être proche de son maître, il ne faut pas se contenter de prendre son repas devant lui, de prendre son repas à côté de lui comme un simple voisin, mais avec lui. Donc il est tout content que Jésus vienne chez lui. Alors on se demandait comment être proche de Dieu. Eh bien, je crois que c'est Zachée qui nous donne la réponse. Pour être proche de Dieu, il faut accepter de se laisser toucher par Dieu. Et pour accepter cette grâce, il faut accepter sa part de faiblesse. Il faut accepter de reconnaître sa propre faiblesse, comme Zachée qui grimpe à l'arbre, alors qu'il est quand même chef des collecteurs de taxes du coin. Et accepter de se laisser toucher, c'est accepter de ne pas être seulement devant Dieu, mais de faire avec lui, C'est accepter de ne pas savoir, de ne pas pouvoir tout faire tout seul et de remettre sa vie à Dieu. Et c'est aussi reconnaître qu'en Jésus-Christ, Dieu est venu nous rencontrer, est venu traverser nos villes comme nos villages. Alors, cette image de la ville, et je finirai sur cela, elle traverse vraiment toute la Bible. On trouve à la fois une mauvaise image de la ville comme lieu de l'indifférence, indifférence à son prochain comme indifférence à Dieu, donc comme dans notre texte, comme dans le premier texte de l'Évangile que nous avons lu, mais aussi dans d'autres endroits, voilà l'histoire de Sodome et Gomorre, les paroles prophétiques sur Babylone, bien sûr. Et puis on trouve aussi de bonnes versions de la Bible, de la ville. Dans certaines prophéties d'Ésaïe sur Jérusalem, par exemple. Et la Bible se finit même sur la description d'une ville dans l'Apocalypse, dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, la Jérusalem céleste, description très détaillée, hein, avec les portes, leurs dimensions, voilà, le plan d'urbanisme, si l'on veut, de la Jérusalem céleste à la fin de l'Apocalypse et donc de la Bible. Et dans le texte que nous avons entendu d'Ésaïe, le premier texte que Christophe nous a lu, et qui est la, en fait la toute fin, vraiment le, parmi les derniers versets du livre d'Ésaïe, on nous parle, comme dans beaucoup d'autres textes de la fin d'Ésaïe, on nous parle de toutes les nations qui se rassemblent à Jérusalem en apportant leurs offrandes, voilà, avec leurs chameaux, et tout leur présent pour apporter au temple du Seigneur à Jérusalem. Et je crois que pour entendre ces textes, il faut penser à l'exaltation et à la joie qui peuvent nous saisir lors de grands rassemblements, par exemple. Il faut penser voilà, à cette joie qui peut nous saisir quand nous sommes en présence, comme dans nos villes, de très nombreux frères et sœurs assemblés dans un même but, assemblés en harmonie. Il y a une joie très profonde à être réunis avec nos frères et sœurs. Je crois que c'est comme ça qu'on peut entendre tous ces textes d'Ésaïe qui nous parlent d'un rassemblement de toutes les nations à Jérusalem, avec voilà, beaucoup d'images très belles, très poétiques. Voilà, il y a une joie très profonde à ces grands rassemblements dans l'harmonie. Et je crois que c'est ce qui fait de la ville un motif spirituel, disons. C'est ce qui fait qu'il y a une signification spirituelle spécifique qui est attachée à cette réalité de la ville. Signification spirituelle qui est que Dieu, enfin, que nous ne sommes pas appelés à vivre repliés sur nous-mêmes, mais avec nos frères et sœurs et avec le monde. Et cela nous dit aussi, je crois, quelque chose en lien avec notre texte, qui est que la ville sur la terre, comme tout groupement humain, elle comporte des dangers spécifiques, et peut-être le plus grand danger qui est celui de la déshumanisation par l'indifférence, voilà, danger dont sont victimes les personnes dont on nous parle dans le premier texte de Luc et qui sont laissées dehors car elles pensaient être proches de leur maître alors qu'elles y étaient en fait indifférentes. Mais qu'une ville où règne vraiment l'amour de Dieu, eh bien, c'est la plus belle chose qui soit puisqu'elle permet précisément ce que Jésus est venu y apporter. La rencontre avec l'autre, l'annonce de la bonne nouvelle à l'autre, la vie avec des frères et sœurs de toutes nations, la vie en communion fraternelle que nous sommes appelés à construire. Amen.